Bonjour David, bonjour à tous. Les éoliennes de Chichy ont été inaugurées mercredi, aboutissement d'un projet qui a débuté en 2010. La journaliste d'investigation de Sévrienne, Marie-Monique Robin, à New York demain soir. Elle participera à la projection de son dernier documentaire en cours des plus percutants, La fabrique des pandémies. Un spectacle pour éveiller les consciences sur le réchauffement climatique, Climax, est joué cette fin de semaine par la compagnie bocaine Zygomatic. Après 2 ans d'absence, le salon de l'habitat de Thouars fait son retour ce week-end à l'orangerie du château. Le duo breton Moondrag en concert ce soir à Bressuire, un groupe qui fait revivre le son des années 70. Quant à la météo, les éclaircies devraient se développer cet après-midi. Grave accident de la circulation hier vers 13h du côté de Marcillet dans le Mélois. Une jeune automobiliste de 21 ans a quitté la chaussée selon toute vraisemblance après avoir dérapé sur des graviers avant de violemment heurter un poteau électrique. Elle a dû être désincarcérée avant d'être héliportée vers le CHU de Poitiers dans un état critique. Son pronostic vital était également engagé. Les éoliennes de Chichy ont été inaugurées en ce milieu de semaine. Aboutissement d'un projet qui a débuté donc en 2010 et qui ne s'est pas monté dans... sans douleur. En effet, a fait la baisse, on ne voyait pas forcément le projet d'un bon œil. Et si initialement 7 éoliennes étaient envisagées, ce ne sont finalement que 3 mâts qui ont été érigés. Un projet qui laisse d'ailleurs beaucoup de traces et de la rancœur dans les propos du maire de Chichy, François-Marie.
Nous avons essayé de prendre en compte l'opposition de fait la baisse à ce projet éolien. Je rappelle que ce projet éolien a été étudié d'abord dans une zone de développement éolien au sein du cœur du Bocage, qui a voté très majoritairement positivement à ce projet. Ensuite, lors de l'enquête publique, il nous a été proposé de supprimer les 2 éoliennes les plus proches de Fay-la-Besse, ce que nous avons fait pour respecter la démocratie et bien évidemment nos voisins. Ce que l'on peut regretter, c'est que derrière, il s'est monté une association qui s'appelle Fay Paysage et que, de façon juridique, nous avons perdu un des élus pour qui j'avais une entière confiance. Et évidemment, aujourd'hui, c'est une blessure que l'on garde.
Ceci étant dit, ce projet d'éolien a été remarquablement conduit par Neoen, un groupe français qui crée de l'emploi local, souligne François-Marie, qui ne cache pas sa fierté devant le fait que sa commune produise plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Un travail entrepris à Chichy depuis le début des années 2000.
Le parc éolien s'inscrit dans le bouquet énergétique que nous avons lancé sur notre commune. En premier lieu, on a d'abord développé tout ce qui est photovoltaïque, premièrement participatif sur le théâtre, deuxièmement pédagogique sur l'école, et nous arriverons à fin 2022 à 3 mégawatts crêtes installées sur la commune de Chichy, donc public-privé. Le parc éolien vient compléter ce type d'énergie renouvelable qui est nécessaire, indispensable pour respecter notre planète, qui nous permet aujourd'hui d'être une commune à énergie positive. Tout le monde prend conscience que la planète brûle et il est très urgent et indispensable pour le bien commun de tous de s'inscrire dans cette stratégie. Même si ça a un impact sur le paysage que je ne contesterai pas, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que notre planète doit rester vivable ou se dégrader comme on le voit à de nombreux endroits du globe?
François-Marie, le maire de Chichy au micro de Fabien Gazot après l'inauguration mercredi des éoliennes qui sont en service depuis la fin de l'année 2021. Le nouveau documentaire de la journaliste d'investigation de Sévrienne, Marie-Monique Robin, projeté demain à Niort. Chacun de ces films, fruit d'une longue enquête de terrain, offre un regard critique sur la situation mondiale. On citera notamment Le Monde selon Monsanto, leader mondial des OGM, ou encore plus localement, Nouvelle Cordée, où elle s'est intéressée à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée à Mauléon. Cette fois, elle met en exergue, par le biais d'interviews de scientifiques à travers le monde, les liens entre la destruction de la biodiversité et l'émergence de maladies infectieuses. Marie-Monique Robin.
Ce que démontrent ces scientifiques depuis des années, c'est que d'abord, la liste des maladies émergentes est très longue. On pense tout le temps à la Covid, mais avant la Covid, il y en avait plein d'autres depuis une trentaine d'années. Ebola, le Zika, le Chikungunya, le MERS, le Nipah, enfin. Le sida est aussi une maladie émergente d'origine zoonotique, c'est-à-dire animale. On a tendance à l'oublier. Et donc, ils ont montré les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et le premier d'entre eux, c'est la déforestation dans les zones tropicales. Ensuite, l'élevage intensif qui sert d'amplificateur. Et la globalisation. Le fait qu'on déplace tout sur toute la planète, dans tous les sens, et ça permet à un virus qui est sorti du bois, si j'ose dire, à cause de l'activité humaine, se retrouve à l'autre bout du monde. Donc c'est ce qu'ont démontré ces scientifiques, et ils démontrent aussi comment la biodiversité en elle-même, c'est-à-dire plus on a de biodiversité, plus on est à l'abri des maladies. La biodiversité protège, c'est ça qui est absolument exceptionnel et très méconnu, en fait. c'est que l'exemple qui est donné dans le film, c'est la maladie de Lyme, avec des chercheurs américains qui ont montré qu'en fait la recrudescence de cette maladie, y compris en Europe d'ailleurs, est due à la fragmentation des forêts qui perturbe l'équilibre entre les espèces, qui fait par exemple que les prédateurs sont obligés de partir parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre, comme les renards, et que du coup certaines espèces de rongeurs prolifèrent, et ce sont ces espèces-là qui sont réservoir de la bactérie qui peut infecter les tiques et ensuite les humains.
Une douzaine de scientifiques ont ainsi été interrogés, filmés dans 8 pays sur 4 continents. Une aventure dans laquelle l'actrice Juliette Binoche a été embarquée.
Moi je me suis dit, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui ne connaît rien à la science et qui rencontre des scientifiques, et du coup ça force et ça contraint naturellement les scientifiques à faire un grand effort de pédagogie, et ça marche parce que bon, moi j'arrête. Depuis le 22 mars on a fait une première avant-première à l'UNESCO avec 1300 personnes, c'était très impressionnant. Après j'ai fait une tournée dans toute la France, je suis allé aussi à Genève, 500 personnes, et partout des gens disent eh bien moi je connais pas la science, j'ai pas de formation scientifique et je comprends ce que me disent les scientifiques.
La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin sera projetée demain samedi à 20h au Moulin du Roc à Niort, en présence de la réalisatrice. On reste dans le même domaine avec un spectacle pour éveiller les consciences sur le réchauffement climatique. 1600 spectateurs ont ou vont découvrir le dernier spectacle des Zygomatiques au théâtre de Bressuire. Après les représentations scolaires, une séance tout public complète depuis des semaines sera proposée ce soir. La compagnie a présenté deux de ses spectacles, Manger au primaire et Climax aux collégiens, lycéens et donc ce soir au grand public. On en est déjà à la 100e de représentation. Pour ce spectacle qui arrache une larme de rire d'un œil, une larme de peine de l'autre. En effet, la compagnie met le spectateur face à la réalité de l'état de la planète, le tout en restant burlesque. C'est la marque de fabrique des Zygomatiques. Ludovic Pitorin, auteur, metteur en scène et comédien.
C'est un spectacle qu'on a essayé de rendre impactant, qu'on a essayé de rendre à la fois divertissant et impactant. C'est les deux vertus qu'on voulait lancer dans ce projet. Et on est plutôt assez content du résultat, parce que pouvoir jouer pour 300 collégiens, devant 300 lycéens et puis devant 300 adultes, et essayer d'aller chercher chez eux une sensibilité qui leur permettra peut-être d'agir, et puis aussi une compréhension de la problématique, parce que ce sont des problématiques qu'on croit connaître, qu'on croit bien appréhender, et finalement on se rend compte qu'on ne connaît pas tant que ça cette problématique-là.
Hier, ce sont les collégiens de France d'Assise à Cerisay, de Notre-Dame et Supervielle à Bressuire qui ont vu Climax. Impression à la sortie avec Timmy Faustine Natoufa.
La planète, elle se réchauffe, et ça aussi, ça nous a fait rire, c'était drôle.
C'est-à-dire qu'on a bien rigolé, mais en même temps, on a compris certaines choses.
Oui.
Bah ouais, parce qu'on peut voir que ça détruit un petit peu la Terre à cause de nous.
Quand on vous présente les solutions qui peuvent être mises en place pour diminuer notre impact sur la planète, ça vous fait peur, ça vous saoule peut-être même d'entendre tous les efforts qu'il va falloir faire, ou comment vous réagissez face à ça?
Maintenant, au contraire, ça nous fait prendre conscience qu'on doit faire des choses.
Ça motive, tu dis là-dessus?
Ouais, c'est motivant pour pas que la Terre tombe dans un grand désastre.
Le spectacle est suivi par un bord de scène où Roland Blandin, technicien de Savoie Environnement, vient compléter le propos du spectacle. Il s'agit de comprendre les leviers que nous pouvons facilement actionner pour réduire notre impact sur la planète en termes d'alimentation, de mobilité ou encore de consommation. En tout cas, le défi de proposer 5 représentations en quelques jours est réussi, comme le souligne Freddy Préau, gérant de Biocoop et membre actif du collectif organisateur.
Mais c'est un véritable défi qui est déjà réussi de toute façon, parce que ce qui est important, c'est d'élever nos consciences sur ce qui est aujourd'hui notre planète, sur ce qui nous attend demain, et les enjeux et les risques de ne pas agir. Et si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer demain? Donc c'est un véritable défi qui est réussi aujourd'hui, en tout cas.
Et la représentation grand public de Climax est prévue ce soir au théâtre de Bressuire, une représentation à guichet fermé. À Thouars, le salon de l'habitat fête son retour ce samedi et dimanche. Effacé du calendrier pendant 2 ans, le salon ressuscite ce week-end à l'orangerie du château de Thouars. L'ancienne équipe a laissé place à une organisation qui reprend corps dans une ambiance totalement rénovée grâce à la société Puzzle, organisatrice d'autres salons en Deux-Sèvres. Pour autant, attirer des professionnels pour exposer n'a pas été aussi simple, comme l'explique le président Bernard Mijon au micro-colline de notre correspondant en Thouars, c'est Dominique Hérault.
Mon objectif était de 70 expos exposant, ben on va en avoir 54. C'est une petite déception, mais c'est pas catastrophique. Il y a plusieurs raisons. L'après-Covid, on s'y est pris un petit peu en retard. On a lancé les entreprises un petit peu en retard. Ce que j'avais donné comme cahier des charges, qu'on n'ait que des entreprises locales, c'est quelquefois des salons, on a des entreprises en tête nationale ou autre. C'est quasiment plus facile à recruter, mais après on se trouve avec des concurrents plus ou moins sérieux. Et donc après, au niveau entreprise, les entreprises du bâtiment à ce jour sont surchargées de travail en n'ayant pas assez de main d'œuvre. Donc ils en voient moins l'utilité de faire un salon. C'est un ensemble de choses qui a fait que on est moins de personnes et c'est pas spécial à Thouars.
Moins d'exposants à Thouars comme pour les autres salons voisins. Cette édition, qui prévoit tout de même un budget de 50 000 euros, sera donc une année de transition. Moins d'exposants donc, mais tous les corps de métier seront représentés dans ce salon de transition avec des petits bonus. Bernard Mijon.
On a mis aussi en avant le compagnonnage. On va avoir un stand de compagnons maçons et charpentiers. Comme on redébute, on a des objectifs, mais on ne peut pas tout faire la première année. Donc cette année, c'était un petit peu compliqué. Mais au niveau présentation, ce sera complètement différent. Même si notre budget est plus que serré, on veut que les gens s'y sentent bien et qu'ils aient envie de revenir. Donc on fait pas mal de communication autour. On a changé toute notre charte graphique, tous nos logos, pour faire voir qu'il y avait un réel renouveau.
Et également président de l'association Montgolfiade en Thouarsais, Bernard Mijon, pensait pouvoir remontrer la montgolfière achetée dernièrement en Angleterre et qui doit porter haut les couleurs du territoire. Mais fâcheux contre-temps, le ballon a été retardé par les procédures douanières à la sortie du tunnel sous la Manche. D'autres montgolfières prendront le relais pendant ce week-end, si la météo le permet. Aucune incertitude, en tout cas pour le retour à Thouars du Salon de l'Habitat qui aura lieu demain et dimanche de 10 à 19h à Lourdes. Orangerie du château, dernière garantie, l'entrée et le parking sont gratuits. Reportage de Dominique Hérault. Moondrag en concert ce vendredi soir à la salle Emeraude à Bressuire. Les frères Duvivier, 23 et 26 ans, débarquent sur la scène bressuiraise avec un rock psychédélique inspiré du rock des années 70. L'un est à la batterie, l'autre au clavier et les deux, Camille et Colin, chantent.
C'est à partir de 13 ans que moi j'ai découvert le rock sous 70 et du coup j'ai fait partager ça à mon petit frère et on a tout de suite eu des groupes ensemble. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce rock des années 70?
En fait, c'était l'époque où je faisais du piano encore, tu vois. Un jour, notre oncle nous a offert un disque de Deep Purple, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais ça a des touches, quoi. Et puis comme ça me faisait un petit peu chier de faire du piano, bah là c'est là où j'ai découvert l'orgue. Et comme dans le rock 70 il y a énormément d'orgue, bah c'est pour ça qu'on s'y est mis, quoi.
Moondrag à la salle Emeraude, c'est donc ce vendredi soir à partir de 21h avec en première partie Léon Bordet et Luis Francesco Arena. En bref, l'inauguration ce matin de la nouvelle école bressuraise La Marelle que les élèves des écoles Jules Ferry et du Guédo ont intégré après les vacances de février dernier. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans l'édition de 18h. École qui ouvrira ses portes au public demain matin. L'ESIAM, entreprise solidaire d'initiative et d'action du Mont-Léonais, ouvre ses portes cet après-midi de 14 à 18h et demain de 9h à 13h. Les portes ouvertes auront lieu sur les trois sites. Atelier bois et atelier service rue de Beauregard. Atelier tissu 37 rue de Nantes. Et atelier démantèlement 30 rue du Cardinal Sourdi. Annulé en 2020 et 2021 pour cause Covid, l'association d'échange et mutualisation des entreprises, l'AMEN, invite tout un chacun demain à découvrir plusieurs entreprises de Montcoutant-sur-Sèvre. 18 d'entre elles ouvriront en effet leurs portes demain de 9h à midi et demi afin de faire découvrir leur quotidien. MH Menuiserie, Lazeris, Clisson Métal, JC Convection, Jourdain TP, les meubles Souris, Servex, Vrigno Maçonnerie, MGM Maintenance Industrielle, les menuiseries Conny, Super U, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, les assurances mutuelles de Poitiers, les services funéraires Route de l'Arjas, mais également l'outil en main. Les pompiers ouvriront également leurs portes, l'occasion de découvrir le matériel de secours et de mieux connaître leur mission. Pour la troisième année, la Maison de l'Emploi et de la Formation du Toircy renouvelle son forum des métiers du bâtiment cet après-midi sur les sites de Point P et CDO, route de Saumur à Thouars. Cette opération vise les jeunes en recherche d'apprentissage, en recherche de projets et plus largement tous les demandeurs d'emploi. La 21e fête européenne du camping-car, c'est cette fin de semaine et week-end au parc des expositions de Niort-Neuron. Quelques 3000 camping-caristes sont attendus autour d'une soixantaine de constructeurs et autres accessoiristes. À retenir également l'Assemblée Générale du Centre Socioculturel de Bressuire ce vendredi. Elle aura lieu à 18h dans les locaux de l'association. On en arrive à l'actualité sportive. Si le SO Cholet est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine en national, le club vient de s'assurer les services de deux nouveaux joueurs. Le latéral gauche international haïtien Martin Expérience, 24 ans, provenance d'Avranches, équipe de national. Et le défenseur central Kevin Riemann, 31 ans, qui portait cette saison le maillot de Bastia Bourgo, également national. Et puis je vous rappelle que le FCB jouera un match crucial pour son maintien en N3 demain samedi à 18h contre l'Esch Cap Ferré. À cette occasion, l'entrée du stade Métayer sera gratuite.